France Inter.
Il y a eu, à une époque, la volonté des élus, c'était de dire le charbon c'est fini, on tourne une page, on va vers l'avenir. Ils avaient raison, mais on ne peut pas ignorer ce qui s'est passé. On ne peut pas tirer un trait sur 270 ans d'histoire qui ont fait la richesse de la France. Il faut tout mettre en valeur, il faut tout expliquer.
À l'occasion des Journées du patrimoine de ce week-end, nous allons poser notre micro dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Voilà 10 ans que l'UNESCO l'a inscrit au patrimoine mondial. Ce qui veut dire que le paysage entre Valenciennes et Bruay-en-Artois, 120 km de long sur 12 km de large, ce paysage est classé au même titre que les pyramides d'Égypte ou le Taj Mahal en Inde. Près de 3 siècles d'exploitation du charbon et de la houille ont fait la richesse de la France, la richesse de ce territoire aussi. 29 nationalités différentes sont venues travailler dans les plus de 100 000 km de galeries creusées. C'est 2,5 fois le tour de la Terre.
Je voyais mon père qui partait avec sa musette sur le dos et puis en mobylette. Ça m'a toujours fasciné de savoir que mon père y allait. Il y a des moments, il me disait à 700 mètres de fond, il fallait avoir du courage pour faire ça.
Le bassin minier a longtemps traîné l'image d'un territoire sombre, abîmé, comme pouvait l'être le visage des mineurs qui rentraient du travail. Mais aujourd'hui, la richesse et l'importance de ce patrimoine semblent enfin mises en valeur à travers de multiples programmes de rénovation, de réhabilitation que le classement à l'UNESCO a permis d'accélérer. Le bassin minier se réconcilie avec son glorieux passé.
L'inscription patrimoine mondial, ce n'est pas l'histoire du beau. C'est l'histoire de ce qui a marqué un avant et un après. Sur le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, c'est associé à quelle grande étape historique ?
La révolution industrielle.
Très bien, la révolution industrielle.
La valorisation économique, historique et culturelle du bassin minier commence à peine, alors que la dernière berline de charbon est sortie il y a un peu plus de 30 ans. Nous commençons ce reportage à l'ouest du bassin minier, à Oudin, chez l'un des tout derniers mineurs. Lui et son épouse ont accueilli Jeanne Bergaoui et Romain Lucquins qui signent ce reportage. Bassin minier du Nord, la revanche des pyramides noires.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Je leur ferme la porte parce que avec le vent, ça claque. Alors ici, il y avait la fosse 5, la fosse 3, la fosse 4, la fosse 7 derrière et la fosse 6. Il y avait 6 fosses. Puis il y avait encore le 2 bis, 7 fosses. De Merle-les-Mines, on pouvait aller jusque Berlin, sous terre.
Par les galeries souterraines.
Par les galeries, oui. Tout était relié.
Sur des dizaines de kilomètres.
Oui, à peu près une dizaine de kilomètres. C'était relayé fosse par fosse.
Jean Marin, on est ici devant votre maison. On voit la pelouse bien entretenue. Et puis il y a ce wagonnet de la mine installé en plein milieu avec encore le petit rail. C'est un souvenir, j'imagine, important pour vous.
Oui, j'ai demandé à la fin si je pouvais remonter une berline. Ils m'ont dit oui, donc j'ai remonté celle-là. Voilà. Bonjour Michel.
Bonjour.
C'est plutôt à vue, quoi, pour les passants, pour tout le monde. Voilà, puis on a été acheter des fleurs, il y a des fleurs un peu partout. Allez-y. L'écuyer Jean Marin, né le 27-3-46 à Divion, Pas-de-Calais, fils d'une fratrie de 10-11 enfants.
Les 7 frères, vous avez travaillé à la mine, vos parents, vos grands-parents aussi,
ouais.
Vous êtes vraiment issus d'une famille.
Ouais, tout le monde était mineur.
Jean Marin, vous êtes aujourd'hui à la retraite, mais vous avez fait toute votre vie au fond de la mine. Vous avez commencé à 15 ans, c'est ça?
Oui, 15 ans. Jusqu'à 19 ans, quand je pars à l'armée. Et après, que j'ai revenu, j'ai reparti tout de suite à la mine. Jusqu'à 91.
Donc là, vous avez des photos d'archives?
Oui. Alors, regardez comment remonter. Là, c'est un set d'avion.
Donc, vous êtes en tenue de travail. Le visage, vraiment, ouais, noir, on ne vous reconnaît pas.
Nous,
je
ne
sais
même
pas où vous êtes.
Oui. Alors, vous voyez, 26 ans là-dedans, puis 10% de silicone. Je les ai. mais je ne m'en plains pas.
En 30 ans, au fond de la mine, vous avez fait différents postes.
Ah oui, j'ai été envoyé quand même 15 ans à l'abattage, enfin, vraiment à l'abattage. Et après, les autres 15 ans, j'étais toujours à l'abattage, mais comme chef de taille. Ça va, vous avez du sucre, tout, c'est bon ?
Il est assez chaud.
Ouais, super.
Quand les mineurs y ont monté, ils buvaient du café avec une pistole, avec un peu de rhum dedans. Et derrière, ils buvaient à Genève, à Genièvre. C'était dur, c'était dangereux, mais on l'aimait bien. C'était une famille. C'est une solidarité qu'on ne reverra plus jamais. Plus jamais.
Jean Marin, vous êtes aussi le 20 décembre 1990, vous faites partie vraiment de la dernière équipe à avoir remonté la dernière berline de charbon. Est-ce que vous vous souvenez de cette journée ?
Ah bah ouais. Je l'avais encore sur je regardais tout à l'heure sur l'ordinateur, mais je l'ai plus. C'est pas comme je l'ai foutu en l'air, quoi.
Alors moi j'ai l'archive, on peut la regarder ensemble si vous voulez.
Vous l'avez ?
Ouais, je l'ai. Hein ? Cette dernière journée historique, elle a été filmée en direct par France 3. On vous voit sortir de la cage, l'escalier, et vous êtes interviewé par le journaliste.
Ouais. Je vous prie de m'excuser, mais on est en train de vivre la dernière remontée en direct, dans des conditions particulières, mais il fallait absolument que nous soyons là. Voilà donc les derniers mineurs qui remontent de 780 mètres de fond pour la dernière fois en direct dans Midi 3. Je vous laisse peut-être dans le silence. Regardez ces mineurs qui remontent pour la dernière fois. Bravo.
Ça fait drôle. Hein. Tous les projecteurs et tout. Un monde, un monde.
Bonjour messieurs. Alors monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous vous êtes dit lors de ces dernières remontées ? Est-ce que vous avez parlé de choses un petit peu différentes de ce dont vous parlez d'habitude ?
Bah, on s'est dit que c'est la fin. On est remonté, c'est la fin, c'est la dernière période.
Est-ce que vous pouvez nous faire partager un petit peu vos émotions là ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là ?
Ah bah, on a un peu
de tristesse, de l'inquiétude pour
Il y a un peu de tristesse parce qu'on quitte tout. Tout est arrêté, quoi. Que tous nos camarades, tout ça, ça fait 10-15 ans qu'on travaille ensemble.
Ouais.
Et c'est certain qu'on est triste.
Et votre famille, elle réagit comment ?
Bah, ma famille,
elle est un peu soulagée.
Il y a beaucoup qui sont perdus, mais j'ai tout, fille, perdu tous mes camarades. Tout. Vous savez, on a été retraités à 45 ans. Tous les copains qu'ils ont dit, bon, bah, soyez, on ne t'envole plus, on est bien. Ils se sont mis devant la télé avec une cigarette et puis une canette. Ils sont partis. Moi, j'ai toujours fait du sport. Vous pouvez me demander, j'arrête pas une minute.
Et t'arrêtes pas une minute de parler de la mine. En vacances ou quoi que ce soit, c'est la mine.
Ah ben, les gens, ils demandent, qu'est-ce que vous faisiez, mineur ? Ah ben, allez. Oh !
Comme on dit, il remue encore le charbon. C'est vrai ?
Sur les images, on vous voit remonter avec une galette dans les mains. Est-ce que vous l'avez toujours ?
Ah, elle va vous faire voir.
Elle est où ?
Elle est par là, elle est dans la chambre du mineur.
On vous suit ?
Ouais. Allez la voir.
Vous l'avez exposée en haut de l'armoire.
Ouais.
Ici, dans cette pièce, il y a tous vos souvenirs de la mine ?
Bah, ça. Pour le patrimoine, pour les enfants, pour qu'ils voient au moins ce que c'est.
Voilà. Les mineurs étaient 625 au mois d'octobre 90. Voici les derniers mineurs qui descendent l'escalier. Et puis la dernière remontée, bien sûr.
Je peux peut-être vous demander votre réaction comme ça, très à chaud, Alain Villain.
J'ai vu disparaître beaucoup d'espaces, qui étaient des espaces de liberté aussi. Les terris, les carreaux de fosse. On avait de grands espaces de liberté dans le bassin minier. Il y a toute une culture là qui malheureusement risque de disparaître. Je pense que notre travail maintenant, ça va être de conserver ce qu'il y avait de plus intéressant. D'oublier un peu le travail excessivement pénible, fastidieux, dans des conditions très difficiles. Et de bâtir sur les restes un or qui sera très accueillant.
Pour découvrir le monde de la mine, on vous conseillera souvent d'aller au centre historique minier de Le Ward, près de Douai. Mais il existe aussi un tas de tout petits musées, souvent gérés par d'anciens mineurs, et alimentés d'objets qu'ils ont sauvés après la fermeture.
C'est le cas ici avec le musée associatif des Amis de la Mine à Wagny. On n'est pas très loin des Nimbomont. Le site est ouvert à tout le monde, mais uniquement en visite guidée. Et c'est souvent d'anciens mineurs à la retraite qui se chargent de vous faire découvrir les lieux, les galeries de mines reconstituées, les vieilles locomotives et les machines d'extraction du charbon. Beaucoup sont toujours en état de marche.
Bienvenue sur le site de la Fosse 2. On va aller voir après à l'intérieur. Bon, moi, c'est Richard. Je ne vais pas dire mon nom parce que vous allez l'extorquer, vous allez mettre...
Chimchak.
Oh là, bien.
C'est ça ?
Bien.
Richard Chimchak.
Voilà. On va descendre à la mine. Avant de descendre à la mine, on va prendre le train. Alors, là, ce tracteur ici, il démarre à l'air comprimé. Hein.
Il y a un côté jeu d'enfant quand même. On sent que ça vous amuse de faire marcher ces vieilles machines.
Moi, je ne fais pas marcher ça. Je m'amuse avec. Oui, c'est un plaisir. Ça, venir à la mine, faire un speech, quoi que ce soit, bon, je veux bien. Mais sans bruit, c'est bon. Tout simplement. C'est pour ça que bon, on va aller. Maintenant qu'on est descendu à la mine, on est plus loin. Surtout, ne pas dévoiler ça.
C'est interdit ?
Bah, il n'y a pas le permis.
Ah. J'avais voilà. Pas le droit de conduire le petit tracteur. Ici, c'est quoi ? C'est une reconstitution d'une galerie ?
Voilà. Toutes ces galeries-là ont été refaites et reconstituées justement pour l'apprentissage. On partait pas à la mine comme ça après, hein.
Alors maintenant que vous êtes équipé avec votre tenue et votre lampe, on descend dans la galerie ?
On va dans la mine, carrément. Allez-y.
Alors il fait noir.
Alors il fait noir, c'est vrai.
On avance dans une grande galerie, il y a des machines d'extraction un peu partout. On sent à peine que ça descend, rien à voir avec les galeries du fond de la mine à 700 mètres ou 1 km de profondeur.
Mais là, il fait plus frais parce qu'on est déjà sous le terri.
Au-dessus de nous, il y a un terri.
Ouais. Et là-bas, plus bas, on va être 12 mètres en dessous. Tout ce qui est là, c'est du matériel qui était utilisé au fond. Alors, on va aller à l'hivercourt, là.
Donc là, on est vraiment sous terre et on change de ville.
On va changer de ville. Là, on est quand on y est, et plus loin, on va être à l'hivercourt.
Donc, qui est la ville voisine.
Oui. Là, maintenant, nous sommes dans une boîte. Une boîte, c'est la galerie principale. Je vais faire tourner le ventilateur. Supposons...
Ça, c'est le bruit qu'on entendait les jours.
On passait devant.
Vous vous souvenez, la toute première fois, vous avez pris l'ascenseur pour descendre dans le fond.
Oui. Je me sentais vraiment petit, compressé un peu avec des adultes. 30 personnes hein, dans une cage. Hein. Et ben, quand la cage a démarré, j'avais l'impression que tout remontait.
que votre cœur allait sortir de votre bouche.
Ouais. C'est purée. On a toujours une petite impréhension, d'accord. Mais après, il faut que c'est parti, c'est parti. Et à la remonte, c'était l'inverse. Hop, tout descend. Mais après, bon, après c'est l'habitude. Hein.
Quel souvenir vous gardez, vous, du fond de la mine?
Le souvenir que je garde? Il y a des bons souvenirs. Les mauvais, on n'en parle plus. De toute façon, il y a une chose. Au fond de la mine, on est tous égaux. C'est même que les marins sur le bateau, ils partent en mer, ils ne savent pas s'ils vont revenir. Ben, nous, on est pareil. Nous étions pareils. Mais bon, c'est la vie. Hein.
Vous trouvez qu'on n'a pas assez valorisé ou qu'on ne valorise pas assez ce patrimoine industriel minier?
J'ai peur que ce soit oublié. Parce que c'est pas dans 10 ans, ça sera trop tard. C'est ça le gros souci. C'est ce qui nous travaille un peu. Que ce soit les collègues ou moi, c'est pareil. Voilà.
La gaillette de charbon qu'a conservé Jean-Marin Lécuyer, que nous avons entendu au début de ce reportage, ce bout de charbon provient de la fosse 99 bis. C'est un ancien site minier à Wagny, aujourd'hui en pleine rénovation. Tous les lundis, l'association Akoustoseki réunit des anciens mineurs ou simplement des passionnés de cet univers. Ils se donnent rendez-vous pour entretenir, réparer, retaper de vieilles machines. Jeanne Bergaoui et Romain Lucquens ont rendez-vous avec Jean-Marie Minot, pour qui la mine n'a plus aucun secret.
Alors, on va déplacer la barrière pour pouvoir rentrer sur le site. Ouh là, c'est lourd. Il y a un arrêté de péril autour des anciens chevalements, les deux chevalements, donc ces immenses tours de fer qui servaient à remonter et descendre les mineurs et les berlines de charbon. Le site est aujourd'hui protégé par des barrières.
Interception. Sur France Inter.
Bonjour.
Bonjour.
Jean-Marie Minot, vous n'êtes pas un ancien mineur, vous êtes vraiment tombé dans la passion de la mine.
Ça fait chaudron comme Obélix. Ouais. C'est curieux, mais je peux rester des heures à regarder une machine tourner. Voilà.
Chaque lundi, depuis 30 ans, vous, les membres de la Akoustoseki, vous venez retaper, rénover, restaurer toutes ces machines.
Oui.
Qu'est-ce qui vous motive autant?
Alors, la motivation, elle est maintenant, je dirais, plus vers l'esprit camaraderie que vers l'esprit technique. C'est pour les copains que je continue de venir. On dit pas ça pour nous, c'est pour l'avenir du site. Nous, les carottes sont cuites. On a fait notre travail. J'estime qu'on a fait notre travail. Maintenant, il y en a d'autres qui doivent continuer à faire le leur.
Vous pensez que cette mémoire vivante, cet héritage minier, il est en danger aujourd'hui?
Oui, nettement.
Pourquoi?
Nettement. Ben, parce que on n'a pas fait ce qu'il fallait. Bon, il y a des témoins qui ont réalisé des métiers particuliers qui ont disparu. Je cite toujours ce métier-là, sur les gens qui sont sur les terris. Parce que à un terri, on s'imagine que c'est sorti de terre quasiment, ça vit tout seul. Mais non, il y avait des gens qui travaillaient sur un terri 24 heures sur 24. Et puis, dans des conditions de travail déplorables, sans ces gens-là, on faisait pas de terri. Et puis, on savait pas où mettre les terres. Hein. Donc, c'est tout un puzzle. De toute manière, la mine, c'est tout un puzzle. Hein. Au début, c'est celui qui creuse le puits. Et puis après, il y a le machiniste qui fait descendre les mineurs au fond, et puis ceux qui creusent les galeries, et puis ceux qui abattent le charbon, et ceux qui le transportent, et ceux qui le remontent, et puis ceux qui le travaillent, qui le transforment en coque, en boulet. On n'en parle pas de tout ça. On parle toujours du mineur qui abat le charbon avec son marteau piqueur ou son pic, et puis c'est tout. C'est l'image des finales. Mais il n'y a pas que ça. Il aurait fallu, mais à mon avis, il est tard. Il est vraiment tard.
On a une période charnière dans la mémoire de la mine.
On a franchi la période charnière. On est dans le négatif maintenant. 80 ans, ou si on vit encore 20 ans, notre cerveau, il aura bien ramolli. Hein.
Vous avez quel âge, vous ?
79.
Dans les années 90, quand ça a été la fin de la mine, quasiment tout a été rasé. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a voulu renier ce passé ?
Alors, il y a eu, à une époque, la volonté des élus, c'était de dire... On tourne une page. Le charbon, c'est fini, on tourne une page, on va vers l'avenir. Ils avaient raison, mais on ne peut pas ignorer ce qui s'est passé. On ne peut pas tirer un trait sur 270 ans d'histoire qui ont fait la richesse de la France. qui ont fait la richesse de la région, même si on dit que c'était une région pauvre, mais non, on a ramené des millions de personnes dans la région, donc ça a fait vivre quand même une certaine quantité de population. Ça servait plus, il fallait faire table rase et puis libérer les terrains pour mettre des industries éventuelles dessus, quoi. Il faut tout mettre en valeur, il faut tout expliquer.
Vous avez peur que par manque de volonté politique, par manque d'investissement, tout ça finalement disparaisse un jour ?
Pas disparaisse, mais végète. Voilà.
Attention. Ouais. Donc voilà, moi je m'appelle Nicolas Rodriguez, j'ai 26 ans. Passionné de la mine depuis un petit peu plus de 2016, donc je dirais oui, 6-7 ans.
Alors c'est vos grands-parents, donc les anciennes générations qui travaillaient à la mine. Ça a sauté une génération avec vos parents qui ne sont pas du tout dans le milieu. Voilà. On n'en parlait pas trop à la maison chez vous de ce monde-là ?
On n'en parlait pas trop et puis je pense que c'était un peu général vis-à-vis du bassin. C'est-à-dire que vous avez une certaine génération qui n'a pas connu la mine parce que leurs parents n'ont pas vraiment voulu la leur faire découvrir aussi. Parce que c'est un travail qui peut être très très dangereux. Des morts, il y en a toujours eu, même si les techniques n'ont pas arrêté de se moderniser. Lors de mes premières années, lorsque je venais ici, j'avais peut-être une raison un petit peu plus personnelle. Je pensais plus à mes grands-parents, par exemple à mon grand-père, parce que je sais que, par exemple, si je touche à telle machine, ça lui permettait peut-être d'abattre du charbon à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus ce côté d'ambassadeur, peut-être. Je sais pas, du passé minier, je m'engage à le restaurer, à le laisser en fait perdurer. C'est un petit peu une mission, ouais. Il faut pas s'arrêter sur c'est bon, on est à l'UNESCO, c'est génial, etc. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire pour honorer au moins la mémoire des anciens.
On vient de fermer la mine hiègre d'Allons-y, le ventre de la colline ne grouillera plus de bruit. Et la poussière, c'est la chanson de la terre. Dans la peur et le malheur, c'est la chanson des mineurs. S'ils font un musée de la mine, je leur donnerai pas ma lanterne. Elle trône dans ma cuisine comme un étendard en berne. Par le soir et la poussière, c'est la chanson de la terre. Dans la peur et la mort, c'est la chanson des mineurs.
Nous sommes maintenant sur le carreau de fosse du 99 bis à Wani. C'est un peu la place centrale, le cœur du site minier, avec d'un côté les puits d'extraction, les installations techniques, et de l'autre les bâtiments pour les douches ou les vestiaires. Le site a échappé à la destruction et il est aujourd'hui reconverti en lieu culturel tourné vers le patrimoine et la musique. Il y a une salle de concert, le métaphone et des studios d'enregistrement. Le 99 bis est ouvert au public, mais ce sont principalement des groupes scolaires du territoire qui viennent découvrir les lieux. Hélène Leleu organise régulièrement des visites, comme ici, avec une classe de 3e du collège d'à côté.
La classe de 3e B, s'il vous plaît. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Hélène, je travaille au sein du service du pôle patrimoine du 99 qui est en charge de valoriser les éléments du patrimoine minier. Alors, on va quand même faire un petit rappel historique pour voir si vous avez des bons restes, puisque c'est des choses que vous répétez déjà depuis, je pense, l'école primaire pour certains. On a extrait le charbon pendant 270 ans, près de 3 siècles. Est-ce que vous connaissez un peu les dates ?
18e.
18e siècle. Tout a commencé en 1720 et tout s'est terminé en 1990, remontée de la dernière gaillette ici, à Wani, à la fosse 99 bis. Pourquoi nos mineurs de 1990 se sont mobilisés pour préserver ce site de la destruction? Quel intérêt d'avoir conservé ce lieu?
Pour avoir un reste de ce qu'ils ont, où ils ont travaillé, enfin quelque chose,
ouais,
qui était marquant.
Le devoir de mémoire. Ah, très bien, pour le devoir de mémoire. Mais sinon, pour
pour garder trace, pour garder l'empreinte de cette histoire sur le territoire, voilà, et pour le devoir de mémoire, c'est-à-dire pour ne pas oublier, pour transmettre aux générations suivantes, c'est-à-dire à vous, hein, que l'on soit d'origine minière ou pas d'origine minière d'ailleurs. Voilà, on va se promener, on va faire une course, on voit un terri, on voit une cité minière, on voit un chevalement. C'est partout que transpire cette histoire minière. Donc on ne peut pas rester insensible. Il est intéressant et important de se poser la question, mais d'où est-ce que ça vient ? Ok, alors, on a été inscrit, enfin, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012. Qu'est-ce que ça représente, patrimoine mondial de l'UNESCO ? Est-ce que vous connaissez d'autres lieux qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ?
La muraille de Chine, la tour Eiffel,
Mont-Saint-Michel. Mm-hmm.
Ah oui, c'est Arras, et c'est quoi ? On en a parlé.
C'est la place d'Arras.
Merci, c'est le Beffroi d'Arras.
Versailles.
Vous m'avez cité des monuments, là. Vous m'avez dit le Mont-Saint-Michel, la tour Eiffel, le Taj Mahal, la tour de Pise. Tous ces éléments, ils ont été inscrits, à votre avis, pourquoi ?
Ils ont marqué l'histoire.
Parce qu'ils ont marqué l'histoire ?
Parce que ça a été important ?
Parce que c'est magnifique.
Parce que c'est beau.
Et moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire que Auschwitz est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'inscription patrimoine mondial, ce n'est pas l'histoire du beau. C'est l'histoire de ce qui a marqué un avant et un après. C'est l'histoire de ce qui a marqué l'humanité, c'est-à-dire l'histoire. L'humanité, c'est quoi ? C'est l'histoire ?
Des humains.
Des humains, des hommes. D'accord ? Sur le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, c'est associé à quelle grande étape historique ?
La révolution industrielle.
Très bien. La révolution industrielle. Alors, je ne sais pas si vous considérez que c'est une chance, mais vous avez la chance d'habiter sur un territoire qui est inscrit sur la liste du patrimoine mondial et qui a donc une reconnaissance mondiale. Et vous me croirez ou pas, eh ben, y a de plus en plus de touristes, parce qu'évidemment ils viennent au 9-9 bis tous les étés, qui viennent de régions de toute la France. Alors, on n'a pas des hordes de Japonais qui débarquent encore, hein. Mais on a beaucoup, de plus en plus de gens qui viennent pour découvrir cette histoire industrielle du bassin minier Nord-Pas-de-Calais.
Je m'appelle Gwenaël et j'ai 15 ans.
Je m'appelle Ethan et j'ai 15 ans aussi.
Je m'appelle Tia et j'ai 14 ans.
Et vous êtes tous les trois en 3e au collège de Wagny ici, c'est ça ?
Exact.
Est-ce que vous venez d'une famille de mineurs, vous ?
Oui, mais d'origine vraiment polonaise, espagnole, vraiment n'importe où.
Oui, mineur polonais. Et du coup, oui, on a beaucoup parlé durant mon enfance, oui.
Aujourd'hui, le bassin minier, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous, en tant que jeune adolescent, est-ce que ça vous parle ?
Oui. Enfin, j'ai l'impression que c'est normal que ce soit vraiment quelque chose qui soit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Ça fait plaisir d'être dans une ville où il y a quelque chose qui est vraiment classé dans l'UNESCO et c'est toujours une fierté.
Bah, moi, pareil, je trouve que c'est assez cool de se dire que dans le monde entier, on peut connaître notre ville, alors que c'est une petite ville au final et
petite ville et qui n'est pas forcément favorisée, et du coup là c'est vraiment quelque chose qui fait connaître, même avec le métaphone où on voit de grands artistes venir ici, c'est vraiment très très cool.
Au premier abord, le métaphone peut surprendre. Sur le site minier du 99 bis, le bâtiment intrigue. Ses murs émettent une curieuse partition. Du son, de la musique, directement issue des façades. Le métaphone est un bâtiment instrument de musique, un concept unique au monde. 48 panneaux de bois conçus par un luthier pour transmettre les sons. Studio de répétition, auditorium, le bâtiment est censé devenir un nouveau centre d'attraction touristique.
Juste en face du site du 99 bis, quand on se retourne, il y a la cité minière, la cité de Claire, qui avait été construite pour loger les mineurs. Ils avaient vraiment juste à traverser la route pour rejoindre la fosse. Aujourd'hui, c'est principalement des logements sociaux. C'est des maisons en briques de plein pied ou un étage, des maisons jumelles. Il y a un grand jardin, souvent derrière, plutôt bien entretenu. Et il y a un monsieur qui est en train de bêcher justement là-bas.
J'enlève les grosses racines parce que tout y repousse. Ils ont mis des cailloux sur des grosses racines et tout y repousse là.
Comment vous appelez monsieur ?
Parisi, Calogero.
Vous avez quel âge ?
J'ai 60 ans.
Vous êtes, vous, un enfant de mineur, c'est ça ?
Oui. Mon père y a passé presque 40 ans au fond, ici au 9 bis. Il a commencé à la fosse 2 et il a terminé ici au 9 bis.
Et alors, si on se déplace, là on est derrière votre maison dans le jardin. Si on avance un petit peu, donc on a à nouveau vu sur le bâtiment de Chevalement et la fosse 9 bis. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous ressentez ?
J'ai les souvenirs de mon père, parce que je suis rentré plusieurs fois avec lui quand j'étais petit. Et ça fait quelque chose, hein, ça fait quelque chose. Quand je voyais mon père qui partait avec sa musette sur le dos et puis en mobylette, et de temps en temps, ben, je le suivais en vélo. Voilà. C'est des bons souvenirs. C'est passé trop vite. Ça m'a toujours fasciné de savoir que mon père y allait. Il y a des moments, il me disait à 700 mètres de fond, il fallait avoir du courage pour faire ça.
Aujourd'hui, le site du 99 bis a été reconverti en lieu patrimonial et culturel. Est-ce que vous êtes déjà allé à l'intérieur voir ce qui se passait ?
Non. Déjà, l'extérieur, ça me fait quelque chose de savoir que mon père a été là-bas. Ça, je sais pas comment je réagirais à l'intérieur. Je crois que c'est beaucoup de souvenirs qui sont partis. C'est la vie qu'on avait avant. La vie de coron et tout, ça me manque. Ça me manque énormément. On disait bonjour à tout le monde se parlait, tout le monde. Maintenant, bah, c'est devenu un peu chacun chez soi. Et puis, voilà.
C'est la solidarité qui vous manque ?
Oui. Par exemple, quand il y a un voisin qui a besoin de quelque chose, bah, il n'y a personne qui va oser demander quoi que ce soit. Maintenant, c'est chacun pour soi et puis on se débrouille. Voilà. Cette histoire, on ne l'oubliera pas.
Au revoir, bonne journée.
Sur les 885 puits creusés, quasiment tous ont été rasés. Ceux qui sont restés debout s'inventent une deuxième vie, au sens littéral du terme, avec de la flore, de la faune, qui aime s'installer sur les derniers stigmates visibles de l'histoire minière, les terris. Nous nous rendons à la Maison de l'Environnement, à Hénin-Beaumont. Elle met en lumière la protection de la nature sur des sites qui furent hautement industrialisés. On y trouve même des espèces jamais vues dans le nord de la France qui viennent s'implanter grâce à la chaleur précisément des terrains. C'est donc au milieu des animaux, des oiseaux, des insectes que l'on retrouve Jeanne Bergaoui et Romain Lucquens. Ils s'apprêtent à monter sur l'une de ces collines artificielles, ce qui était absolument interdit du temps de la mine.
France Inter. Interception.
Bonjour.
Bonjour.
Gaëtan Grimberg, vous êtes coordinateur pédagogique sur le site d'Aquaterra, qui est la maison de l'environnement dans l'agglomération d'Hénin-Beaumont-Carvin.
C'est ça, c'est tout à fait ça.
Et là, donc, on va voir le Terri 205 qui est dans le parc des îles, là où vous travaillez.
Voilà, le Terri 205 fait partie intégrante du parc des îles, avec les îles qu'on peut découvrir et les animaux qu'on peut entendre.
Qu'est-ce qu'on entend là ?
Ah, ce sont des grenouilles. Donc c'est le chant des grenouilles mâles pour attirer leurs femelles.
C'est un site qui est particulier parce qu'il a été installé sur une ancienne coquerie, donc vraiment une industrie minière.
C'est ça. Alors en fait, aujourd'hui, on a l'impression d'être dans un site complètement naturel, mais on est sur un site qui est 100% artificiel en réalité, où on a il y a eu une volonté de renaturer un site industriel et d'en faire un espace de nature.
On a l'impression d'être à la campagne. Il y a des lacs, des arbres.
C'est ça, alors qu'on était sur un des sites les plus industrialisés du territoire. Les animaux se sont assez vite appropriés le lieu et on a eu une colonisation qui a été très intéressante assez rapidement en fait. Oh là, regarde, on a un joli héron qui vient de décoller. Le héron cendré. Il nous fait son chaud en plus, il tourne autour de nous.
On va justement en direction du Terri 205.
Voilà, alors le Terri 205, oui, qu'on voit juste derrière nous.
il est fermé au public.
Alors oui, c'est un terri qui a la particularité d'être encore en combustion. Alors nous, on y va parce qu'on connaît déjà les zones et qui sont en échauffement, et on y va pour des soucis de gestion. C'est-à-dire, c'est simplement, nous, à l'aglo, on a le droit d'aller. Mais sinon, j'emmène pas de public sur ce terri.
Concrètement, un terri, c'est quoi ?
Un endroit où on va stocker tout ce qui va pas servir à l'industrie du charbon. C'est-à-dire qu'en fait, on va remonter du charbon, certes, mais on ne remonte pas que du charbon, on va remonter également de la roche, alors en général plutôt des schistes, plutôt des grès. Comme on ne savait pas qu'en faire, et ben on les a mis sur des endroits, et au fil du temps, ces tas se sont créés, sont montés, et on a aujourd'hui ce qu'on appelle des terris. Dans les mines à l'est, on les appelait des crassiers. Crassier qui viendra donc de crasse, quelque chose de pas propre, etc. Et c'est vrai que longtemps, le territoire a subi cette image de pays noir avec des gros tas de cailloux, etc. Et là, aujourd'hui, quand on voit la transformation, on se dit que la nature, c'est quand même quelque chose de formidable. Hein. Quand on dit que la nature déteste le vide, on s'en rend bien compte. Hein, un tas de cailloux avec toutes les plantes qu'on peut retrouver aujourd'hui, et des plantes hyper intéressantes en plus, parce que c'est des plantes qu'on n'aurait pas eues si on n'avait pas eu l'industrie minière.
C'est vraiment un travail combiné de l'homme et de la nature, à tel point qu'on retrouve aussi par exemple des pommiers, parce que les mineurs jetaient leurs trognons dans les berlines de charbon et que c'était ensuite monté sur les terris.
La trace de l'homme et la trace de la mine, elle est toujours là. On peut le voir en se baladant. On va retrouver des roues de berlines, on va retrouver quelques morceaux de rails, on va retrouver effectivement des choses qui étaient de l'industrie minière, mais que nous, on n'estime pas devoir à enlever. Je pense que ça fait vraiment partie du passé. Et effectivement, on va rencontrer aussi des plantes. Alors, on parlait des pommiers, mais on a d'autres plantes un peu étranges qui poussent là-haut. On a un petit dattier, hein, voilà, qui on le voit juste derrière nous. Un joli pivert qui vient de passer. Hop, avec son vol en vague, là. Ça, c'est le pivert. Et qui se pose. Ah, lézard, ça y est.
C'est un peu une chasse au trésor, en fait, de grimper le terri.
Toujours. Toujours, et j'y prends toujours autant de plaisir. La zone d'échauffe, on la voit bien, là. C'est une zone qui est complètement en combustion. Alors déjà, elle se repère facilement parce qu'on n'a pas de végétaux.
Il y a vraiment une ligne de démarcation. On voit que c'est nu et à côté, c'est végétalisé.
Voilà.
On approche de la zone de chauffe, on est ici sur le flanc du terri. Gaëtan et ses collègues viennent régulièrement prendre la température pour suivre un petit peu la combustion et surveiller les risques d'affaissement. Vous tâtez le sol à la recherche d'une zone chaude.
Une zone chaude, ouais. Ah, ça y est. On sent que c'est humide, hein.
Donc, faut un peu gratter la terre.
Ouais.
Donc là, vous mettez un thermomètre de cuisine planté dans la terre.
Ouais.
Et il fait déjà 45.
Donc là, on est sur une fin de combustion. On est sur une fin de combustion, on voit que le thermomètre est en train de grimper. Alors déjà, là, je suis à quoi ? 2 cm dans le sol. Je suis déjà à presque 50 degrés.
Ce qui veut dire qu'au cœur du terri, on est à combien ?
Alors, au cœur de la combustion, on peut arriver à des 800 degrés. Hein. Maintenant, plus on va creuser, forcément, plus on aura... Là, je peux faire un peu le test, hein, mais... Donc, on a 50 degrés là. Là, si vous posez tout doucement votre main, vous allez sentir la chaleur.
Effectivement, ouais.
Je vais remettre le thermomètre à cet endroit-là pour voir. Donc, on est un tout petit peu plus profond, là. Voilà, comme ça. On a pris 7 degrés sur 2 cm. Ça donne une idée, quand même, de la combustion.
Thank you. L'un des enjeux aujourd'hui du renouveau du bassin minier, c'est la réhabilitation de l'habitat, souvent des logements sociaux. À Pécancourt, petite ville entre Douai et Valenciennes, deux cités minières sont inscrites à l'UNESCO en raison de leur qualité architecturale. Des maisons de briques rouges qui ont été totalement repensées, réhabilitées, tout comme l'espace public. Il y a une grande place, des jardins ouvriers, des espaces de jeux pour les enfants. On va visiter la cité aux côtés de Raphaël Alessandri. Il est architecte, chargé d'études à la mission Bassin Minier, et il a travaillé sur le projet de rénovation. Depuis les travaux, vous n'êtes jamais re-rentré dans une maison ?
Non.
On va aller dans une maison, on a rendez-vous avec des habitants qui habitent là depuis une trentaine d'années. On est dans la bonne rue.
Bonjour,
Michel.
Bonjour, madame. Allez-y, rentrez.
Merci.
Ça va ?
Ça va bien ?
Bonjour.
Pas le temps, non ?
Bonjour. Oh, ça va, il pleut pas.
Ouais, c'est bon. Ouais, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Ça va, oui.
Alors, je vous présente mon épouse.
Madame Pruvot-Monique, 67 ans.
Pruvot-Michel, je vais avoir 67 ans aussi.
Et vous habitez la cité depuis une trentaine d'années, c'est ça ?
Ah, ouais. 36 ans, exactement.
36 ans. Ici, c'est la pièce principale, vous voyez. C'est salon, salle à manger. Vous venez par ici, là, c'est la cuisine.
Et ça, ça a changé. Il y a 30 ans, c'était pas comme ça.
Non. Il y a 30 ans, c'était pas comme ça. Il y a 30 ans, il y avait la pièce là, la cuisine, c'était tout en longueur. Les toilettes, ici, les toilettes avant, ils étaient l'autre côté, dans la salle de bain à l'extérieur. Et là, c'est la salle de bain.
Une chambre, pour ainsi dire.
C'est mieux qu'avant, hein, quand même, faut l'avouer. Si, si, faut pas avoir peur des mots. Déjà, question chaleur. Il y avait, avant, on se chauffait au charbon. Et maintenant, c'est au gaz. Hein. Nous, quand on sortait au soir, faut le rentrer, tisonner le feu. Tandis que là, on rentre au soir, on soulève ça, tac, tac, voilà, c'est fait. On en avait besoin, franchement, ouais. C'est eux qui avaient conçu les maisons, non, non.
J'ai travaillé sur le projet, ouais, depuis le début, ouais.
Moi, je dis quand c'est bien, non, mais rénovation, franchement, n'a pas se plaindre. Mais je trouve que la cité se détériore un petit peu. Question propreté.
Votre cité, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ?
Pour moi, rien. À part que... On a plus le droit de mettre de chalet ou des trucs comme ça, voilà, c'est ça qui... Il n'y a que ça qui change, moi. Moi, pour moi, l'UNESCO, déjà...
Ça vous parle pas, l'UNESCO ?
Non, franchement, non, ça me parle pas. Non.
C'est sûr que vous ne le voyez pas. Enfin, l'UNESCO, c'est abstrait. Mais c'est intéressant pour moi d'entendre, parce que l'UNESCO, ce n'est pas une baguette magique.
Non,
mais par contre, ça nous a permis, s'il n'y avait pas eu ça, on n'aurait pas pu aller chercher tout l'argent qu'on est allé chercher. On n'aurait pas pu faire le projet qu'on a fait, c'est-à-dire là, transformer les jardins, faire les places là où vont jouer les gamins. Sinon, la cité, elle aurait été rénovée comme on a fait pendant 40 ans.
Amélioration de l'habitat.
Ouais,
à coup, ils font les toitures. À coup, ils vous changent les fenêtres.
Voilà.
À coup, c'est le porte, mais il faut attendre combien de temps ? Tandis que là, tout y a été rebattu, pouf, 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 et tout y est remis.
Tout a été bien rénové.
Ouais, franchement,
si, c'est bien, bien rénové, oui.
Nous, personnellement, on est contents. Hein,
ouais.
On est heureux.
Oui, ça va.
On se laisse vivre, maintenant.
Vous en pensez quoi, du coup, 10 ans après, de revoir ce sur quoi vous avez travaillé ?
C'est à la fois rassurant. Parce que quand on fait un projet comme ça, on n'est pas à la place des gens. On sait jamais. Tout le monde fait en se disant qu'on fait bien. Mais après, on n'est jamais à l'abri de choix. Aussi, ce qui est compliqué dans les rénovations des cités, c'est qu'il faut faire pour les gens qui sont là, mais en imaginant ce qui va se passer dans 30 ans. C'est une satisfaction pour nous, parce que quand on voit d'où on est parti, parce que vous disiez l'UNESCO ça mène à rien, moi je peux vous dire, pour avoir vécu, on a quasiment arrêté les bulldozers, on s'est enchaîné aux bulldozers presque, hein. Il y avait pas d'argent, il y avait rien, il a fallu tout refaire à zéro pour faire le projet tel qu'il est aujourd'hui. C'était pas gagné quand même, hein.
Franchement, vous avez bien travaillé. Continuez comme ça. Bon, les défauts, on n'en parle plus. On est bien. Voilà.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous allez bien?
Bien et vous?
Ben, ça va, très bien, merci.
Je vous
bonjour.
Dire, je vous laisse parce que je veux dire bonjour.
Bonjour. Je m'appelle Lisa, je travaille à l'office de tourisme de Cœur d'Ostrevent, situé à Pécancourt.
Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, cette inscription UNESCO, le regard que vous portiez?
Alors, à titre personnel, mais je pense que c'est un petit peu le fait d'être dans le métier, mais complètement. On essaye toujours de sensibiliser le public, justement, à cette fierté d'appartenir à une région qui a une histoire assez incroyable, assez puissante. À chaque fin de visite, en général, on essaye de faire prendre conscience. Et donc, moi, depuis, on va dire que je travaille ici, je prends de plus en plus conscience de ça. Mais je pense qu'il y a quand même une certaine ferveur qui arrive de plus en plus de la part des habitants de la région, qui est pas négligeable. Il y a encore du boulot, hein, parce qu'on vient de, très très loin. Hein. On n'est pas forcément chauvin hein, dans la région.
Qu'est-ce que vous leur dites pour leur faire prendre conscience qu'ils habitent un territoire exceptionnel?
On fait toujours le parallèle avec d'autres sites qui sont inscrits à l'UNESCO dans le monde ou en France. Et on leur dit, mais vous imaginez, là vous êtes sur un terri qui est inscrit au même titre que les pyramides d'Égypte ou le pont du Gard, ou voilà, des grands monuments hyper connus. Et donc il y a cette prise de conscience qui est... Ils se disent, ah ouais, quand même, c'est quand même la classe, quoi, de se dire qu'on a une histoire. Et... Enfin, nous, on le vit pleinement aujourd'hui. Je sais pas, les gens sont tellement attachants, en règle générale, que on veut les emmener avec nous, quoi, tout simplement.
Bassin minier du Nord, la revanche des pyramides noires. Reportage de Jeanne Bergaoui avec Romain Lucquins et François Rivalan à la prise de son. Réalisation Jérôme Chélus, assisté de Martine Messonnier. Mixage Guillaume Ledu. Cette émission est déjà disponible à la réécoute sur le site de France Inter.